Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Cindy, je suis une des leaders ici à Home, une des leaders du soir, notamment avec Raphaël et Sabine. Et puis c'est vraiment, vraiment une joie de vous retrouver. Pour ceux qui peut-être nous visitent, c'est la première fois en fait qu'on se retrouve après cet été. On aime vivre ce qu'on appelle un été pour connecter. Et puis le but derrière cet été-là, c'est de rappeler à nos âmes et puis que en fait la façon dont on a de vivre l'Église ne se limite pas à ce qu'on vit ici à la célébration le dimanche. Donc cet été, on a pu vivre un été pour connecter. On a eu des barbecues, on a eu des moments au lac, on a eu des randos, on a eu un moment de louange dans la forêt. Enfin voilà, plein d'activités pour développer notre relation à Dieu et puis notre relation les uns aux autres de manière différente. Mais, tout ceci étant dit, c'est une joie de pouvoir revivre les célébrations aussi ici. Vous êtes d'accord avec moi ?
C'est cool, hein ?
Là, petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait très chaud. Et du coup, n'oubliez pas de boire. Donc, si jamais il y a de l'eau au fond, et sentez-vous libre tout au long de la soirée d'aller boire. D'accord ? C'est important. Ok, maintenant qu'on a dit ça, on va commencer une nouvelle série. Ici à Home, on aime fonctionner en série. Ça veut dire qu'en fait, pendant plusieurs semaines, on va s'intéresser au même sujet. Et puis en fait, la raison pourquoi on aime faire ça, c'est parce que ça nous permet de vraiment un peu creuser plus profondément un sujet qui est de la Bible et puis que Jésus nous enseigne dans notre marche de disciples. Et puis, dans cette série-là, on va voir quelque chose qui est fondamental pour nous en tant qu'Église, et c'est la chose suivante. Vous êtes prêts ? Oui, oui, vous êtes prêts, je le crois. Que notre vie soit structurée autour d'être transformée à l'image de Jésus. Ça sera un petit peu la grande thématique de cette série. Et c'est l'invitation à la marche de disciples, c'est pas juste de passer de « j'ai pas compris » à « j'ai compris Jésus, du coup je crois en lui ». En fait, c'est la marche de disciples, c'est expérimenter la transformation que ça produit dans nos vies. On en parle souvent ici à Home en tant que règle de vie ou de pratique spirituelle. Et régulièrement, on aime explorer un petit peu cette thématique durant l'année. Et là, on va le faire en suivant un gars qu'on retrouve beaucoup dans la Bible. C'est un gars qui s'appelle Paul. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, tous ces noms-là font en fait référence à la même personne. Paul est peut-être un des auteurs de la Bible qui est le plus connu. C'est lui qui a écrit près de 2/3 du Nouveau Testament, donc de ce qui a été écrit après la venue de Jésus. Et puis, ce gars-là, il est incroyable. Il y aurait tellement à dire sur son sujet, mais en fait, durant cette série, on va s'intéresser spécifiquement à des éléments biographiques de sa vie pour en fait nous challenger, nous défier vraiment à être constamment transformés à l'image de Christ en tant que disciple. Et là, du coup, durant cette série, comme on va s'intéresser vraiment à sa vie, on va vraiment plonger davantage dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un livre qui peut-être agit le plus comme écrit biographique de la vie de Paul, notamment à partir de Actes 9 jusqu'à Actes 28. Et puis du coup, comme vous êtes là ce soir, vous faites partie d'un challenge que je vais vous lancer, que vous le vouliez ou non. Il ne fallait pas venir si vous ne vouliez pas, voilà. Je rigole. Mais ce challenge-là, c'est qu'en fait, on va avoir une série qui dure 4 semaines. Qui dit 4 semaines, dit à peu près 28 jours. Et du coup, le challenge que je vous lance, c'est de lire un chapitre par jour des Actes des Apôtres. Ça va pour vous ? Un chapitre, ça va. Franchement, je suis gentille. Hein. C'est assez chill. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à vous y atteler à partir de demain, acte 1. Et qu'en fait, jusqu'à la fin de cette série, en fait, on aura lu ensemble les Actes des Apôtres. Et du coup, là, je vais vous aider. Je vais vous y donner un peu goût ce soir parce qu'on va lire une partie du chapitre 9 de de ce livre des Actes des Apôtres. Donc, je vais lire les versets 1 à 22. C'est assez long, donc ça va aller. Vous pourrez respirer, puis simplement écouter et suivre ici. Et puis, on va lire Actes du coup 9, 1 à 22, qui sera un peu comme la base de ce que je vais vous partager ce soir. Voilà ce qu'il est dit. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'ils y trouvaient quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » ?»« Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias !» Celui-ci répondit « Je suis là, Seigneur. » Le Seigneur lui dit « Va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va !» Car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il posa les mains sur lui et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Vous me suivez, ça va ? Yeah, on a encore un petit bout. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est bien le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres ? » Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Incroyable comme histoire, non ? C'est fou. C'est tellement dramatique, cette histoire, quand même. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut dire qu'on a eu cette expérience. Mais c'est une histoire de fou, ce qui se passe ici. Et on va en parler un petit peu ce soir, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Et du coup, mon premier point s'intitule « Le chemin de Damas, le moment où tout change ». La raison pourquoi je vous donne mes points, c'est de 1, pouvoir me suivre, mais 2, prendre des notes. Vous prenez des notes dans la vie ? C'est bien si jamais. Je sais que ça fait un peu en mode court, mais je vous promets que Jésus parle quand on prend des notes et on s'en rappelle bien plus. Donc, ce moment qu'on vient de lire de la vie de Saul est souvent appelé ou connu comme la conversion de Saul. C'est le moment où Saul rencontre Jésus personnellement, comme on l'a lu. Mais souvent, quand on lit ce passage, on a une image assez mauvaise de Saul, quand même. Hein. On entend souvent les phrases un peu typiques de persécuteur à prédicateur, du méchant au gentil. Alors, bien sûr, je caricature fois mille, mais vous comprenez un petit peu l'idée. On peut vite prendre Saul pour un religieux fou. On le catégorise très facilement comme un homme violent et en colère, quelqu'un qui avait tellement de haine pour Jésus qu'il voulait juste s'en prendre aux disciples. Mais c'est bien plus complexe que ça, ce qui est en train de se passer dans ce passage. Et pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on rentre un peu comme dans les souliers de Saul sur le chemin de Damas, pour qu'on puisse en fait saisir réellement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la vie de Saul. Donc, là, je fais appel à votre imagination. On est sur le chemin de Damas. Bonne chose, on a à peu près la température qu'il faut dehors pour se l'imaginer. Et là, Saul de Tarse marche en direction de Damas. C'est un juif, un pharisien, un rabbin, tous ces mots pour dire en fait c'est un maître de la loi juive. Il connaît vraiment les écritures de la Torah, il fait partie du peuple juif, c'est-à-dire d'un peuple qui est consacré, mis à part pour ce Dieu unique qui serve, et puis il fait partie de ce peuple-là. C'est un gars qui est vraiment a été enseigné la loi depuis très petit et qui connaît vraiment, vraiment, vraiment très bien les écritures. Imaginez que ce Saul-là, il avait un sac à dos. Il a un sac à dos qui est comme rempli de croyances profondes et de convictions qui comme guident sa vie. Et ses convictions sont un peu comme sa boussole, c'est sa façon de voir le monde et de comprendre Dieu. Et on va voir ensemble trois éléments qu'on retrouve dans ce sac à dos et dans le sac à Saul. Premièrement, il y avait cette conviction que son peuple, donc le peuple juif, attendait depuis très longtemps un Messie qui allait venir et qui allait les délivrer une fois pour toutes de toute oppression. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle cette attente messianique. Ils attendaient, et là ça fait bien des centenaires, qu'ils attendent qu'un Messie va arriver pour les libérer. Et ils croyaient fermement que ce peuple-là, son peuple, était appelé à une consécration particulière à leur Dieu. Et en fait, qu'il y avait une différence, du coup, il y avait une séparation, une différence entre le peuple juif et les nations. Deuxièmement, Saul savait que Dieu avait promis, dans les Écritures, c'est écrit dans Ésaïe, Néhémie, Psaume, vous pourrez aller voir si vous voulez, je vous épargne toutes les références ce soir. Mais Saul savait très bien que Dieu avait promis de bénir toutes les nations, comme il a béni Israël. Donc là, on commence à voir un peu dans son bagage, il y a en même temps, ok, mon peuple est consacré, différent de toutes les nations, et en même temps, Dieu il est en train de dire qu'à un moment, il va bénir toutes les nations comme il a béni Israël. Vous comprenez un petit peu la tension dans ce sac à dos-là, il commence à y avoir des choses qui sont... Comment on concilie tout ça ? Il sait, parce que les Écritures l'ont annoncé, que le Messie aura comme héritage toutes les nations. Et il comprenait du coup que la mission du Messie ne s'arrêtait pas seulement à sa nation et puis son peuple, mais il y avait des implications mondiales. Et troisièmement, on retrouve dans son sac à dos un modèle qui a été comme instauré dans la Torah, donc la Bible à son époque, qui est une partie de notre Bible aujourd'hui. Il y avait comme le modèle de ce qu'ils appelaient à cette époque-là les hommes zélés. Dans l'histoire juive, c'est des personnes qui, à chaque fois qu'il y avait un compromis qui se passait dans le peuple d'Israël, où ils adoptaient peut-être des pratiques païennes, ils se retournaient ou ils se détournaient de Dieu, il y avait comme un homme zélé qui se levait à chaque fois, et c'était un homme héroïque, c'était un homme qui agissait avec violence et ferveur pour dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais ramener le peuple d'Israël à la consécration à Dieu. » C'est des gars qui allaient genre détruire les autels qu'il y avait sur les montagnes. Enfin voilà, vous lirez l'Ancien Testament, c'est quand même toute une aventure. Mais il y avait vraiment ces hommes zélés qui se levaient pour dire non, moi je tiens à la consécration de notre peuple à notre Dieu et je vais être la brèche. Donc Saul marche sur le chemin de Damas avec ces choses-là dans son sac à dos. En fait, Saul, il voulait être ce juif zélé. Et c'était sa conviction, il était là, mais en fait, je veux être ce juif zélé dévoué à son Dieu et dévoué à son peuple, dévoué à la consécration du peuple d'Israël, à son Dieu. Il était prêt à agir du moment qu'il y avait juste un signe de compromis pour le peuple d'Israël. Et là, le moment décisif se produit. Jésus rentre en scène. Et pour Saul, Jésus n'a rien d'autre qu'un imposteur. Saul rejette catégoriquement l'idée que Jésus puisse être le Messie. Pour lui, le Messie doit venir avec triomphe. pas mourir sur une croix. Et en plus de ça, entendre que Jésus est ressuscité des morts selon les disciples, c'est presque incompréhensible pour lui. Ça défie toute sa logique. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ces trois éléments dans le sac de Saul ? Vous me direz, c'est bien chouette, c'est quoi avoir avec moi ? En fait, c'est pour qu'on saisisse qu'avant que Jésus se révèle à Saul sur le chemin de Damas, en fait, Saul était convaincu de faire la bonne chose. Il avait une définition de la réussite qu'il croyait être juste en tant que juif zélé, en tant que pharisien, et il cherchait simplement à l'accomplir et à honorer ça. Il prenait le chemin qu'il pensait en fait être juste et honorable. Je dis ça, je ne suis pas en train de justifier tout ce qu'il a fait. Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire c'est bon tout ce qu'il a fait, génial. Non, pas du tout. Mais il faut qu'on comprenne que c'est bien plus complexe qu'un homme juste rempli de colère qui veut tuer tout le monde. En fait, Saul, dans ce passage-là, il est en chemin. Comme nous tous. On est tous en chemin. On a tous notre propre sac à dos de croyances et de convictions. Et on s'efforce de vivre selon ses convictions du mieux qu'on peut, chacun d'entre nous. Mais tout à coup, comme pour Saul, Jésus nous invite aussi à le rencontrer sur notre chemin de Damas, à se révéler à nous et en fait à bouleverser notre vie. Et c'est comme si tout ce qu'on a vécu jusque-là vient être chamboulé parce que comme pour Saul qui a rencontré Jésus sur ce chemin, tout à coup on est arrêté sur notre chemin. Et il y a un facteur qui rentre en compte qui est non négligeable. Et c'est cette rencontre avec Jésus. Jésus, tout à coup, rentre dans l'équation. Et c'est comme si tout est à recalculer. Tout est à comme recalibrer. C'est le moment où tout change. Je vais vous lire un extrait de N.T. Wright, qui est un théologien qui est spécialisé vraiment dans Paul notamment, et puis le Nouveau Testament. Et il parle de ce moment-là dans la vie de Saul. Il dit la chose suivante. Ce moment, qui est la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, a brisé les rêves les plus fous de Saul et à la même fraction de seconde, les a accomplis. De cette manière, il l'a compris à cet instant, l'accomplissement des anciennes écritures d'Israël, mais aussi le rejet total de la manière dont il les avait lues jusqu'à présent. Saul avait eu raison dans sa dévotion envers le Dieu unique, mais il s'était complètement trompé dans sa compréhension de qui était ce Dieu unique et comment ses desseins seraient accomplis. Sa loyauté de toute une vie était tout à fait juste, mais totalement mal dirigée. Tout était maintenant concentré sur la figure dont émanait une lumière éblouissante, celui qui avait été crucifié. Le ciel et la terre se rejoignaient en cette figure, donc Jésus. Et il ordonnait à Saul de reconnaître ce fait et de réorienter sa vie entière en conséquence. Réorienter sa vie entière en conséquence à cette rencontre avec Jésus. Voilà ce sur quoi on va s'arrêter pour le restant du temps qu'on a ensemble ce soir. Rappelez-vous que le sujet central qu'on a pour cette série tourne autour de ce point suivant qui est que notre vie soit structurée autour d'être transformée à l'image de Christ. Pour Saul, cette restructuration de sa vie autour d'être transformée à l'image de Jésus, ça a commencé sur ce chemin de Damas, le passage qu'on a lu auparavant. Elle commence avec la rencontre avec Jésus. Et on va voir ensemble deux éléments ce soir qui ont été bouleversés par cette rencontre, qui sont deux aspects de nos vies aussi à nous que Jésus désire aussi transformer. Et du coup, le deuxième point de ce message, c'est une invitation à la transformation. Et puis vous l'aurez compris, j'ai parlé de deux éléments, donc c'est un point avec deux sous-points. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long. Donc toute sa vie, Saul a vécu une vie qui est régie par sa compréhension de la Torah et de son Dieu. Il est profondément convaincu de ses croyances, il a son sac à dos et il y tient fermement. Il est complètement dévoué à son Dieu et à son peuple. Son dévouement est en fait très réel pour lui. Je vais vous relire Actes 9, les versets 1 à 2, pour comprendre un petit peu l'intensité dans laquelle Saul vivait. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Si, S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Le gars est dévoué à sa cause. Il est passé par les biais officiels. Il s'est dit, vas-y, là, c'est tellement important, il faut que j'écrive aux autorités, aux prêtres qui ont une autorité, où là, je peux avoir comme un sign-off, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ce n'est pas grave, un sign-off de, ok, je peux aller faire ce que je dois faire, parce que, en fait, c'est vraiment de grande importance. Et là, dans ce contexte-là, Saul rencontre Jésus. Et pour Saul, cette rencontre change absolument tout. Je vais le dire comme ça, le facteur Jésus qui rentre en compte sur le chemin de Damas change tout dans son équation. En fait, sur ce chemin, il y a un des éléments qu'on voit être complètement bouleversé pour Saul, c'est sa vision du monde. Et mon premier sous-point, du coup, c'est une vision du monde transformée. Et je vais m'expliquer. Pour qu'on ait un peu une compréhension commune de ce que ça veut dire, la vision du monde, je vais vous donner une citation de Michael Whitmer, qui est un professeur et théologien. Et il le dit très simplement, parce que c'est bien complexe, mais il le dit très simplement. Il dit « Une vision du monde est un cadre de concepts fondamentaux ou de croyances sur le monde. En résumé, une vision du monde constitue la lentille à travers laquelle nous percevons le monde. » Il faut qu'on pense à notre vision du monde un peu comme des lunettes. On porte tous nos propres lunettes. On a tous une vision du monde. C'est une façon de percevoir le monde qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle du coup notre vision du monde. C'est à travers ces lunettes-là qu'on comprend tout ce qui se passe dans notre vie et qu'on explique notamment tout ce qui se passe dans notre vie. Que ce soit des événements, les personnes autour de nous ou même nous-mêmes. Et Dieu là-dedans aussi. Et c'est par ces lunettes qu'on va définir les choses et expliquer nos expériences. Et en réalité, c'est quelque chose de très très présent aujourd'hui. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais comment est-ce que je comprends et j'appréhende les tensions sociales, les tensions économiques, les tensions écologiques ? Toutes ces questions-là, en fait, sont en lien avec notre vision du monde. Notre vision du monde va venir informer la façon dont on va répondre à ces questions-là. Et pour Saul, avant sa rencontre avec Jésus, ses lunettes étaient constituées de ses croyances et de sa compréhension de Dieu et de la Torah. Tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il comprenait, c'était comme filtré par ces lunettes-là. Mais quand Jésus est rentré dans sa vie, ça a été comme si une nouvelle paire de lunettes lui avait été donnée. Comme même, je dirais même presque rajoutée que donnée. Sa façon de comprendre le monde et sa propre existence a été complètement transformée. Et il faut imaginer que nos croyances et notre façon de voir le monde est comme un puzzle. Comme ça, ça va peut-être donner une image plus claire. Et avec Jésus, qui arrive du coup dans ce puzzle pour Paul ou Saul, en fait, tout à coup, tout le puzzle doit être recomposé. C'est pas que... Il n'y a plus ce puzzle et c'est un nouveau puzzle qui arrive. C'est une pièce de puzzle qui arrive et tout à coup, tout doit être recalculé, tout doit être recomposé. Et en fait, toutes les croyances à Saul ont dû être réexaminées et comme redéfinies à la lumière de Jésus. Et ce processus de transformation, il a été symbolisé par son moment d'aveuglement qu'on a lu plus tôt sur le chemin de Damas. Il était comme quelqu'un qui portait des lunettes embuées par ses anciennes croyances et tout à coup, il y a une lumière brillante qui l'aveugle. Mais quand il a retrouvé la vue, quand Ananias est venu à imposer ses mains et qu'il a retrouvé la vue, en fait, il a réouvert ses yeux avec une nouvelle clarté. Il a retrouvé la vue, mais ce n'est plus du tout la même vue. Jésus avait enlevé ses écailles, il parle des écailles qui tombent de ses yeux, et il percevait tout d'une manière totalement nouvelle. Et en fait, c'est comme si la vision du monde à Saul avait été comme mise à jour avec ce facteur Jésus qui rentre en compte sur son chemin à Damas. Je vais reciter N.T. Wright parce que c'est le boss de Paul. Il a un livre incroyable à ce sujet-là, si ça vous intéresse. Mais il dit la chose suivante au sujet de la transformation de la vision du monde de Saul. Il dit « Saul a toujours prié le Shema, qui est une prière juive qui priait 3 fois par jour. Mais maintenant, il le prie avec Jésus. Il a toujours raconté l'histoire de l'Exode, mais maintenant, Jésus en fait partie intégrante. Il repense à ce que signifie être un Israélite loyal avec Jésus en tant que Messie de Dieu, tout au long du chemin. » En fait, ce n'est pas une suppression de tout ce qui s'est passé et tout à coup, je passe de juif à chrétien et j'oublie tout mon passé. C'est vraiment une pièce du puzzle qui est rajoutée et tout à coup, tout de ma vision du monde, tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente commence à avoir un nouveau sens parce qu'il y a une nouvelle pièce et cette pièce, c'est Jésus. Vous êtes d'accord que je vous donne un exemple de ma propre vie? Alors, j'ai longuement hésité entre cheval, famille. Je me suis dit, bon, on va aller avec la famille, hein, parce que pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime beaucoup les chevaux, je travaille beaucoup avec les chevaux. Et du coup, j'aime donner des exemples chevaux, mais il n'y a pas tout le monde qui me suit, étonnamment. Je n'ai jamais compris pourquoi. Du coup, je me suis dit, la famille, c'est un peu plus voilà, pour tout le monde. Si vous voulez connaître mon exemple cheval, venez me voir après, parce qu'il est vraiment cool aussi. Mais du coup, j'ai envie de vous donner un exemple que moi j'ai pu voir de mes propres yeux pour aider un peu à saisir la profondeur de cette transformation de notre vision du monde quand Jésus devient en fait un facteur dans notre équation. Il y a maintenant plus de 4 ans, ma sœur et mon beau-frère sont devenus parents d'accueil. Donc ils ont accueilli maintenant 3 enfants qui sont des enfants d'accueil qui sont absolument incroyables. Il y a quelques-uns ici qui les ont rencontrés. C'est des amours, je les aime trop. Et ces 3 enfants viennent de situations qu'on peut dire peu enviables. C'est des passés qui ne sont pas évidents, où il y a de la souffrance aussi derrière. Alors certes, ils sont venus dans la famille quand ils étaient assez jeunes, mais en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et en fait, ils ont eu, malgré eux en quelque sorte, un début de vie qui a établi en eux une vision du monde très forte. Alors, ils ne pourront pas te l'expliquer comme moi, je peux te l'expliquer à mon âge, mais on le sent. Il y a une vision du monde qui a été établie. Et là, tout à coup, du jour au lendemain, je caricature un peu parce qu'il y a quand même des visites entre deux, mais ils se retrouvent du coup dans un tout autre environnement. Une nouvelle famille, des parents d'accueil qui les aiment, qui les écoutent, qui sont investis en eux, qui ne partent pas, qui vont rester avec eux quand ils sont en colère, qui vont rester avec eux quand ils sont en train de criser, qui vont rester là, présents avec eux. En plus de ça, on rajoute du coup, il y a la famille nucléaire, mais en plus de ça, toute une famille et un entourage plus large, des tatas, des oncles, des grands-parents, nous c'est Jipa et Jima chez nous, il y a comme tout à coup, toute une nouvelle dimension qui apparaît dans leur vie. Du jour au lendemain, ils découvrent qu'une autre culture de famille est possible. Et puis en plus, pour certains d'entre eux, c'est que tout court, une famille existe. Et là, bouleversement total. Tout change. Leur vision du monde, et je vais utiliser un terme qui est hard, mais c'est la réalité. Leur vision du monde est comme sous attaque à ce moment-là. En fait, il y a un conflit énorme. Je vis quelque chose. C'est comme cette pièce a été rajoutée à mon puzzle. Et tout à coup, en fait, ça ne joue plus. Je dois comme redéfinir et je dois comme venir recalculer tout ce que j'ai vu, toute la façon dont j'ai d'agir et d'être avec les autres, etc. C'est comme si ce nouveau facteur-là dans la vie de ces enfants, donc de mes neveux et nièces, c'est comme... C'est comme un énorme boom dans leur vie. Il y a tout qui change. Et là, je vous l'explique avec mes mots, mais je ne peux pas vous dire assez comment j'ai vu ces enfants être transformés, et encore aujourd'hui, par ce facteur-là dans leur vie. Par le fait que ma famille les aime, que ma famille vit avec eux sans pour autant supprimer ou comme ne rien dire de leur passé, en disant « non, maintenant vous êtes famille d'accueil, on oublie même votre passé, on oublie d'où vous venez, on oublie tout ça ». Non, en fait, ça vient juste redéfinir tout ce qui était le passé. Comment est-ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu est comme de plus en plus compris à travers la façon dont ils sont aimés et éduqués par ma sœur et mon beau-frère et leur entourage plus large. C'est comme tout est à revoir. C'est plus possible d'avoir la même vision du monde qu'avant parce qu'en fait, ils ont rencontré un amour qui est tout autre. Mais ma sœur et mon beau-frère sont aussi disciples de Jésus, aussi croyants, et du coup, ils ont aussi rencontré l'amour de Jésus. Et je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas une meilleure évangéliste que ma grande-nièce. Et c'est un truc de fou. Mais en fait, tout a été recalibré dans leur vie, dans leur manière de gérer leurs émotions, dans leur manière de parler, dans leur manière de se voir, de voir les autres. Tout ça parce qu'ils ont rencontré un amour qui est tout autre. Tout ça parce qu'ils ont rencontré un amour qui n'abandonne pas, qui ne part pas, qui leur dit pas « débrouille-toi tout seul dans ta vie ». Et en fait, cette même invitation est là pour toi et moi quand on rencontre Jésus et qu'on découvre cet amour qu'il a pour nous. Jésus, il a invité Saul à le rencontrer, à le suivre sur ce chemin de Damas, et il a profondément bouleversé la vision du monde dans le processus. Il n'a pas cessé de faire cette invitation quand il était sur terre. Et je peux vous dire une chose, c'est que cette invitation reste toujours aussi présente pour nous ce soir. La question que j'ai du coup pour toi, c'est est-ce que ta façon d'expérimenter la vie, le monde, les autres, toi-même, est-ce qu'en fait elle est marquée par ce facteur Jésus ? Est-ce que ton puzzle a été recomposé ou est en recomposition ? Parce qu'il y a cette pièce de puzzle, Jésus, qui vient tout redéfinir. Pour ceux qui suivent Jésus depuis un moment, cette question est spécifiquement pour vous. Peut-être une autre façon de tourner cette question, c'est de te demander qu'est-ce qui, en fait, au final, n'a pas été affecté par Jésus dans ta vision du monde ? Qu'est-ce qui est resté intact ? Qu'est-ce qui ne change pas ? Si je reprends l'image du sac à dos de Saul tout à l'heure, qu'est-ce qui en fait restait enfoui dans ton sac ? Peut-être que tu le gardes intentionnellement, peut-être c'est inconscient, mais qu'est-ce qui est là, qui a encore besoin d'être recomposé ? Cet élément de notre vision du monde qui est transformé du coup à la lumière de Jésus, elle est centrale dans notre vie de foi. Tout ce qu'on vit et tout ce qu'on connaît est appelé à être redéfini à travers les lentilles et ces lunettes qu'on a de Jésus. Et ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que si notre vision du monde va être entièrement impactée par Jésus, mais en fait, il y a des changements qui vont en être le fruit. Et pour introduire le deuxième sous-point, j'aimerais du coup soulever deux changements drastiques qu'on voit dans la vie de Saul dans le passage qu'on vient de lire. Et je vais lire les versets 19 à 21. Ils disent la chose suivante. « Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient « N'est-ce pas lui qui à Jérusalem s'acharnait contre ceux qui invoquent son nom ?» N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres ? Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Ok, vous êtes prêts pour mes deux observations ? Ouais. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, vous savez que j'ai des observations très perspicaces. Mais je vous promets, il y a une profondeur derrière. Ok, donc premièrement, Saul reste avec les disciples. Voilà. Deuxièmement, il proclame Jésus comme fils de Dieu. Il le proclame comme Messie. Donc en gros, de ces deux observations, que pouvons-nous conclure ? La chose suivante. En gros, il fait et dit tout le contraire de ce qu'il planifiait de faire à Damas. En l'espace de quelques jours, tout a chamboulé pour Saul. Alors oui, sa vision du monde a chamboulé, mais en fait, ça a chamboulé au point où en fait, ses actes, ses priorités, ses objectifs, son entourage, ses paroles, son discours, tout, un 180 degrés, il y a tout qui a changé. Ceux qu'il voulait arrêter, les disciples, sont au final ceux avec qui il reste, qui mange et qui communie. Celui qu'il voulait éradiquer, Jésus, et en fait, celui qui va proclamer haut et fort comme Messie, comme fils de Dieu. Il passe d'être animé par une haine pour Jésus à donner sa vie pour lui, à souffrir pour lui. Et Dieu lui-même le dit dans ce passage-là, il dit « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » En d'autres termes, le cœur de Saul a été radicalement transformé. Et en conséquence, tous ses plans ont été bousculés. Et c'est là le deuxième sous-point, un cœur transformé. Saul est bien arrivé à Damas comme prévu. Pourtant, plus rien était comme avant. On pourrait dire, en fait, il est arrivé à sa destination. Mais en marchant, son objectif a complètement changé. Son cœur a été transformé et complètement renouvelé. Et sa rencontre avec Jésus s'est concrétisée, en fait, et manifestée concrètement dans sa vie. En fait, ce n'est pas juste intellectuellement que Saul disait croire en Jésus. Toute sa vie commençait à pointer à lui. Son rythme, son discours, ses priorités, la direction de sa vie, vous lirez par la suite, vous verrez, il a plus du tout la même vie. Hein. Mais vraiment pas. Il se retrouve en prison, souvent, en plus. Mais en fait, absolument tout de la vie de Saul, dès ce moment-là, de sa rencontre avec Jésus, commençait à pointer dans une nouvelle direction et commençait à pointer à Jésus, comme sauveur, comme Seigneur, comme Messie, comme le vrai Messie. Et comme pour Saul, l'invitation que Jésus nous donne, en fait, c'est rien de plus ou rien de moins que ça. C'est rien de plus ou rien de moins que la transformation. Une invitation à être transformé à son image chaque jour, à chaque moment, pour le restant de notre vie. Et cette transformation, elle impacte tout. Comme pour Saul. Elle transforme nos cœurs, ce qui produit du coup une vie qui est marquée par Jésus dans tous les domaines. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet un temps où il donnera un cœur nouveau. Et puis il dit la chose suivante, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Une transformation profonde qui est en fait encore aujourd'hui disponible pour toi et moi. Toute notre vie avec cette nouvelle pièce de puzzle qui rentre et qui vient tout recomposer, toute notre vie va prendre un nouveau sens, mais en fait, elle va aussi venir prendre une nouvelle direction. Toute notre vie commence à pointer à lui, parce que ce cœur nouveau, ce souffle nouveau, cette direction nouvelle, tout va témoigner de Jésus. Parce qu'il est la pièce de puzzle qui a causé toute cette recomposition. Marcher et avoir une vie qui est structurée autour d'être transformée à l'image de Jésus, ça commence par une transformation de notre cœur et de notre vision du monde. Et tout ça, ça commence avec, comme pour Saul, une rencontre avec Jésus. Et je vais inviter là l'équipe de louange à me rejoindre pendant que je conclue. Mais peut-être que pour certains, alors que j'ai partagé ce message, peut-être que pour certains, ce message vient comme une invitation de la part de Jésus. Peut-être que toi aussi, tu es en route pour Damas avec une idée très claire de ce que tu as en tête. Tu sais ce que tu vas y faire. Point barre. Personne ne t'y arrêtera. Et ce soir, c'est peut-être le moment où Jésus dit stop. Il y a une rencontre à avoir lieu. Il y a une redirection de ta vie. Il y a comme un bouleversement du sens de ta vie et de la direction de ta vie qui peut prendre lieu ce soir. En reconnaissant qui Jésus est, l'amour qu'il a pour toi, le sacrifice qu'il a fait pour toi à la croix. De dire, par ma vie, je te réconcilie au Père. Ton identité n'est en fait pas quelque chose construit par l'homme, c'est construit par Dieu qui t'a créé, qui t'a voulu. Et qui te pourchasse encore aujourd'hui. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois qu'il y a comme cette idée d'invitation à rencontrer Jésus. Et si c'est le cas, il y a une équipe, Patrick est déjà là-bas, qui se tient pour prier avec vous, avec Elodie. Je vous encourage vraiment à aller prier avec eux. Ils sont là pour se tenir avec vous. Et on croit profondément que la vie avec Jésus, c'est une vie communautaire. Donc marchez pas seul là-dedans. Si vous avez des questions ou il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à ce qui a été dit ce soir, allez-y. Si vous avez encore des questions une fois que ça se termine, venez nous voir, venez parler avec nous. On est là pour vous et on veut se tenir avec vous sur votre chemin de vie aussi. Mais quoi qu'il en soit, si c'est une consécration pour la première fois à Jésus pour toi, de reconnaître pour la première fois qu'il est en fait comme pour Saul, en fait il est réellement le Sauveur et Seigneur. Ou peut-être que pour certains c'est une reconsécration, c'est de dire en fait je crois que j'ai laissé des choses dans mon sac qui sont restées intactes, qui sont inchangées par cette pièce, qui n'ont pas été recomposées par cette pièce Jésus dans mon puzzle. Et peut-être alors que je dis ça, tu as une chose spécifique qui te vient en tête. Tu te dis, ah, ça j'y tiens. Ou ça fait longtemps que je tiens à ça et que je ne sais pas trop comment. Est-ce que, imagine, je lui donne, mais imagine, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux vraiment t'encourager. Il n'y a pas de meilleure décision que de donner ça à Jésus. Parce que c'est vraiment là où tu trouveras la liberté, c'est là où tu trouveras une vie en abondance. Est-ce que ça va rediriger ta vie à 100%? Mais ça en vaut tellement la peine. Et j'avais encore une chose pour laquelle j'avais à cœur de prier. Donc il y a la consécration à Jésus, la reconsécration pour certains. Peut-être il y a des endroits justement de votre vie que vous sentez, ça je dois réabandonner, je dois redonner. Cette partie-là de ma vie n'a pas été recomposée à travers cette lunette de Jésus. Et la troisième chose que je ressentais fort alors que je préparais ce message, c'est que j'avais l'impression que, là je vous fais rentrer dans ma vie de prière, une de mes plus grandes prières c'est Seigneur, que je ne me lasse jamais de te rencontrer. Et j'avais l'impression que ce soir c'était aussi cette invitation-là, il y a des personnes ici qui ont cette prière-là. Seigneur, garde-moi. Garde-moi de détourner mon regard de toi. Garde-moi d'être lassée de te rencontrer. Parce qu'en fait, rencontrer Jésus, c'est pas juste une fois. C'est jour après jour. Et combien c'est facile d'être distrait. Combien c'est facile de se rappeler de ce moment incroyable sur le chemin de Damas, mais ça fait des mois et des mois qu'en fait, on n'a pas eu un face-à-face avec Jésus. Et je sens que Dieu, ce soir, il est là. En fait, moi, je veux. Moi, je désire. Moi, je désire rencontrer. Ça n'a jamais été une question du désir de Dieu, est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il ne veut pas. Et il cherche des cœurs qui disent « moi aussi ». Et je sens que ce soir, il y en a. Du coup, s'il y a un de ces trois comme axes de prière qui résonne en toi, je vais t'inviter à te lever et je vais prier avec vous. Et encore une fois, si tu donnes ta vie à Jésus pour la première fois, incroyable. Ne reste pas seul. Connecte avec nous. On veut pouvoir t'accompagner là-dedans. On veut pouvoir prier avec toi, te donner aussi une Bible et simplement vivre cette aventure avec toi. Mais pour ceux qui, justement, ont peut-être quelque chose dans ce sac à dos où ils sont là, il faut que je redonne ça à Dieu. Ou peut-être que cette prière de Seigneur, que je ne me lasse jamais de te rencontrer, c'est une prière que tu as envie de faire ou que tu fais déjà, je t'invite à te lever maintenant et on va prier ensemble en tant que communauté. Je suis déjà levée moi, donc je ne vais pas me lever, mais on va prier ensemble pour qu'on puisse rencontrer Jésus à nouveau. Je sais qu'on n'a pas l'honneur d'encore voir Jésus, physiquement parlant. Mais il nous a dit qu'il a des yeux comme le feu. Ses cheveux sont blancs. Alors, je ne sais pas ce que ça nous importe, mais Mais ses yeux sont comme le feu, ça nous consume. Ça nous consume. Et ce soir, moi, ma prière, en fait, c'est, en quelque sorte, je m'en fiche du message tant que Dieu agit. Une des prières que j'ai dit avant de venir ici, j'ai dit, Seigneur, que mes mots faibles puissent être des vecteurs pour ta parole vivante qui puisse venir transformer les cœurs des gens. Parce qu'en fait, c'est pas moi. Et c'est pas moi que vous voulez rencontrer, c'est pas l'équipe Louange que vous voulez rencontrer, c'est Jésus. Celui qui a ses yeux de feu qui viennent consommer et qui viennent amener la vie. Du coup, je vais prier et on va ensuite prendre un temps de louange. Avoir ce face-à-face avec notre Jésus. Seigneur, je te remercie pour la vie qu'on peut trouver en toi. Je te remercie pour cette vie que tu offres. Et Seigneur, pour toutes les personnes ici, je prie qu'on puisse te rencontrer. Ouvre nos cœurs. Qu'on puisse te voir, avoir un face-à-face avec toi. Ces yeux qui sont comme le feu qui consume. Qu'on n'arrive pas à détourner nos regards de ces yeux. Seigneur, je prie que tu viennes comme déverser ton amour ce soir. Qu'on ne peut pas se passer de ta présence, on ne peut pas se passer de cette rencontre avec toi. Qu'on ne peut pas se passer d'une rencontre chaque jour avec toi. Et Seigneur, je te remets toutes les personnes, tous les sacs à dos sur tout le monde, où on vient avec nos convictions, notre vision du monde. Seigneur, on veut te donner la place ce soir et dire, viens recomposer notre monde. Viens recomposer notre vision du monde. Viens recomposer la façon dont je comprends la vie, mais aussi dont je vis. Que tu sois la pièce de ce puzzle qui cause toute la recomposition. Et que tout tourne autour de toi. Que tout tourne autour de cette réalité que tu es venu sur terre. Tu as donné ta vie pour nous, pécheurs, séparés de Dieu. Et tu as réconcilié chaque homme et chaque femme à Dieu. Par Jésus-Christ. Oh, qu'on ne se lasse jamais de cette réalité. Viens réanimer en nous cet émerveillement de ta grandeur, de ta splendeur. Rencontre-nous dans ta grâce encore une fois. Et Seigneur, que comme dans un chant, il s'est dit, si je fléchis mes genoux, que ce soit devant toi. On est là, Seigneur. On veut te rencontrer. Et on veut te laisser toute la place. Pour venir recomposer notre monde, recomposer notre vie. Et transformer nos cœurs et notre vision du monde. En ton nom, je prie. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.